Alors, sans enchaînement, comme on dit, Thierry Joliveau, professeur d'université qui enseigne à l'université Jean Monnet, qui appartient à un laboratoire que vous avez certainement vu sur Internet, qui s'appelle le CRENAM, le Centre de Recherche sur l'Environnement et l'Aménagement, Environnement-Aménagement, deux mots-clés en géographie. Surtout, Thierry s'occupe d'un master SIG, un master professionnel. Il y a aussi au CRENAM un master recherche sur les systèmes territoriaux, le développement durable. Ce qui est important, c'est que pour un universitaire, c'est quelqu'un qui s'est intéressé depuis plusieurs années à l'enseignement secondaire. Il a travaillé notamment en partenariat avec l'INRP. On a travaillé à plusieurs avec Yvan Carlo qui est là, avec une équipe de professeurs associés. On a mené une expérimentation lourde sur 3 ans à partir d'une étude de cas sur Miribel Jonage. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais simplement c'est pour vous donner un peu le cadre. C'est quelqu'un donc qui s'intéresse beaucoup aussi à l'enseignement autour des SIG et au renouvellement des problématiques de l'enseignement de la géographie avec ces outils-là. Dernière chose importante, c'est que je crois qu'il nous apporte un éclairage qui n'est pas forcément un éclairage spécifiquement universitaire, mais un éclairage de quelqu'un qui aussi est impliqué dans la production d'outils. Et il va nous montrer un outil en ligne, une plateforme qui s'appelle GeoWeb Explorer, qui permet déjà d'avoir des idées aussi de ce qu'on peut faire en formation auprès des enseignants. Voilà, à toi la parole Thierry.
Merci bien. Donc, alors, pour ne pas être coupé à la fin, je vais essayer de me censurer. Donc en fait, je vais faire plutôt un commentaire rapide de mes diapos que les diapos tels que je les avais présentés. D'autant plus qu'au départ, il y en avait 50. Non, alors pas, je ne voulais pas en présenter 50. J'en ai tiré 20 des 50. Donc comme elles seront mises en ligne, je mettrai les 50 en ligne. Et puis ceux qui veulent aller voir ça, ils iront. Simplement une toute petite remarque. Le master qu'on a, il est aussi recherche, c'est-à-dire il est professionnel et recherche. Et plus ça va aller, plus on va essayer d'associer recherche et professionnel. Simplement pour dire, moi je suis donc géographe et géomaticien, c'est-à-dire j'assume les deux casquettes. Et l'idée aussi, c'est que j'enseigne avec la géomatique. Donc c'est là-dessus, le avec entre parenthèses du titre est important parce que. Et je vais revenir sur quelques définitions, mais très très rapide. Je pense qu'il y a quand même, pour quelqu'un qui, moi je m'intéresse à la géomatique, et on est venu me chercher pour poser la question de savoir comment on enseigne la géomatique dans le secondaire, question que je ne m'étais jamais posée. En revanche, je me pose tout le temps la question de comment j'enseigne avec la géomatique, entre guillemets, dans le supérieur. Et contrairement à ce qu'on peut croire, même si j'ai appris tout un tas de choses dans le projet sur le fait que les conditions de travail des enseignants sont complètement différentes, j'ai bien compris. Je pense qu'il y a continuité, c'est les mêmes, vos élèves sont nos étudiants. Donc, je veux dire, quand on les récupère après la terminale, nous on les a en première année en géographie, et donc il y a bien une continuité, il n'y a pas de raison qu'il y ait une séparation entre des outils du supérieur et des outils des cycles précédents. Donc simplement, moi je crois qu'il y a 3 situations. Il y a enseigner les méthodes et outils de la géomatique en général, ça c'est plutôt mon boulot habituellement pour les professionnels ou pour les géographes. Plutôt, et assez rapidement vers la situation 2, comment on applique certaines méthodes et outils dans un domaine spécifique, c'est l'hydrologie ou la géographie, et ça se posera différemment dans le supérieur et dans le secondaire, mais c'est une situation intermédiaire. Puis il y a une troisième situation que j'ai découverte quand on m'a demandé de venir intervenir dans le secondaire, c'est enseigner dans un domaine en utilisant des méthodes et des outils géomatiques. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le avec, les parenthèses sont plus ou moins présentes. J'insiste là-dessus, c'est la question de la transparence de l'outil. C'est-à-dire que moi, j'étais venu avec l'idée d'avoir des outils très très simples quand on m'a demandé de monter un projet avec l'INRP sur le secondaire. Et c'est les enseignants qui m'ont dit non, on veut des vrais outils, on veut des trucs qui sont professionnels. Parce que nos élèves, il faut qu'ils voient des choses qui ne sont pas des jouets, mais des choses qui s'approchent. Alors on est coincé entre des outils trop complexes, mais aussi des outils qui ne peuvent pas être que des gadgets pédagogiques. Au sens, c'est une crédibilité du prof de dire vous travaillez avec des vrais outils. Ça sent bien dans l'exposé de sur Montpellier de Sébastien Catala. Il y a un outil professionnel, ArcView, et c'est intéressant de l'avoir. Et donc, c'est une demande, moi, que j'avais pas au départ et qui m'a été donnée. Bon, très rapidement, revenir sur des termes. Pour moi, la géomatique, son objet, c'est la gestion de l'information à référence spatiale. Le cœur, c'est le traitement informatique des données spatialisées, et non pas géographique. Je ne suis pas d'accord avec la définition de Wikipédia, j'écrirai à Wikipédia. Parce que je pense que ni géographique, ni géologique, c'est des données à référence spatiale. Je veux dire, un réseau d'égouts, ce n'est pas un objet géologique, ce n'est pas un objet géographique, c'est un objet spatialisé. On peut en avoir une approche géographique, on peut en avoir une approche ce qu'on veut, mais c'est de la donnée spatiale. Et puis pour moi, la géomatique et les SIG, c'est une base de données, des outils matériels et logiciels pour gérer, et un ensemble de méthodes. On a fait à peu près le tour de ce qu'est la géomatique. Et par exemple, Google Earth, pour moi, est typiquement un SIG. Alors qu'Arc Explorer n'en est pas un. Arc Explorer est un outil SIG, c'est un logiciel. Alors que Google, il y a de la donnée, il y a des méthodes, on l'a bien vu, des coupes, etc. Il y a des traitements possibles. Et puis, il y a un outil logiciel pour le traiter. Donc, Google Earth est typiquement un SIG, ce qui est en train de bouleverser, en effet, la manière dont les gens posaient les SIG, y compris chez les professionnels. Hein, c'est-à-dire, les gens des SRI, MapInfo, etc., se demandent comment ils doivent répondre commercialement à l'invasion Google. Hein. Dans tous les colloques géomatiques, c'est comment on se positionne, est-ce qu'on se positionne, comment on se positionne par rapport à Google. Bon. Aussi pour caler les choses, pour moi, un SIG, c'est d'un côté une abstraction, une modélisation du monde, de l'autre côté une interface de visualisation et d'interrogation, c'est ce qui est sur les deux côtés marqué, et puis c'est un processus qui va de la collecte jusqu'à la publication, communication de données. Et on a bien vu qu'il y a deux positionnements possibles. Il y a un positionnement plutôt collecte saisie par ici, là, qui est intéressant si on veut mettre le terrain dans le système, si on veut aussi faire que les élèves sont acteurs dans la base de données. En même temps, les contraintes dans le secondaire font que si on veut produire des choses, c'est plutôt du côté de l'analyse, de la synthèse, c'est-à-dire vers plutôt l'aval. Et donc, dans ce que je vais parler, nous, on s'est positionné sur l'aval. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant de faire l'amont, c'est parce que dans les conditions qu'on nous avait données dans le projet quand on a commencé il y a très longtemps, c'est attention, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on va perdre du temps à faire de la collecte. C'est pour ça, mais ce n'est pas satisfaisant. Bien. Alors, par rapport à la... Bon, moi, je ne suis pas didacticien. Hein, je suis un pragmatique de l'enseignement. Et puis, je suis quelqu'un qui essaye de se poser la question. Moi, j'ai découvert ça, cette relation enseignant-savoir-élève. Et la vraie question qu'on se pose... C'est des usages. Et là, je ne vais pas répondre usage parce que je n'ai pas le temps et puis parce que ce n'était pas l'objectif. Je vais répondre ressources, je vais répondre outils. Ça, c'est une autre question, une autre chose que je voulais dire en tant que géomaticien, c'est que je ne sais pas séparer les outils des usages. C'est-à-dire qu'il y a des usages qui sont complètement déterminés par des outils, il y a des usages qui sont à peu près un peu plus libres parce que les outils permettent de faire des choses plus variables, mais séparer les usages des ressources géomatiques qu'on met, c'est quelque chose qui est difficile. Et donc la question que je me pose, c'est pour cette relation pédagogique enseignant-savoir-élève, qu'est-ce qu'on met comme ressources géomatiques pour l'appuyer ? Donc, je passe très rapidement sur le projet à partir duquel on avait réfléchi. C'est un projet donc, qui a débarré en 2000, qui était piloté par l'INRP, et qui est typiquement un projet de situation 3, c'est-à-dire il fallait gommer la place de la géomatique, il fallait qu'elle soit transparente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de géomatique dans les programmes, les profs allaient les rassurer, enfin je passe assez rapidement. Donc le contexte, il est marqué ici, on a des horaires très contraints, on a des enseignants sans compétences géomatiques pour une partie, on a une salle informatique, des ordinateurs en réseau, et il faut faire de l'apprentissage en présentiel, c'est tout un tas de caractéristiques. Donc un cahier des charges, c'est rester simple, pas de présentation directe des méthodes. Si on présente ce que c'est comme zone tampon, attention, il faut que ce soit dissimulé sous une interrogation géographique. Ne dites surtout pas vous faites une zone tampon, faites autre chose et puis ils apprennent la zone tampon. C'est-à-dire, c'est des choses comme ça. Ça, c'était les contraintes qu'on nous avait données, que moi j'ai assumées venant de l'extérieur, hein, étant celui qui ne connaît pas. A priori, si on me le demandait maintenant, je forcerais un peu plus pour dire, attendez, on peut peut-être prendre le temps de donner des méthodes pour elles-mêmes. C'est peut-être une vraie question. Et puis, donc insister, j'en ai déjà parlé, sur le volet aval de l'activité, c'est-à-dire exploration, analyse, communication. Ça nous a pris quand même presque 2 ans hein, pour arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on allait faire avec, parce qu'en 2000, on débutait. Donc, un certain nombre de choix dans ce projet sur lesquels je peux pas le décrire. Ceux qui l'ont déjà entendu, bah, ça leur fait au moins l'économie de quelque chose. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet d'expérimentation dans une classe autour d'un jeu de données sur une zone en amont de Lyon et dans lesquels les élèves doivent utiliser les outils géomatiques pour faire de la géographie. Donc, on a abandonné les outils SIG professionnels, trop coûteux, trop complexes. Un outil SIG professionnel est trop complexe pour être transmis aux élèves dans les contraintes de temps. En revanche, la nécessité d'une référence professionnelle, donc nous, on est très vite allé, dès 2000, on allait sur Arc Explorer. On avait au moins la caution d'un grand éditeur. Voilà. Et puis, le développement d'un outil qu'on a développé qui s'appelle GeoAnalyst, qui est, c'est moi qui ai poussé pour le faire, qui est un outil qui permet de prendre en compte des traitements qu'on n'a pas dans Arc Explorer, c'est-à-dire la production de nouvelles données par dérivation de couches. Des intersections, des calculs de distance, etc. Tout un tas de choses qu'on n'avait pas dans Arc Explorer. Et moi, ça me gênait que ça ne soit que de la visualisation. Parce que la géomatique, moi, la visualisation sont très importants. J'adhère tout à fait à ce qui était dit sur l'œil. On comprend avec l'œil. Les anglo-saxons appellent ça du visual thinking. On pense avec l'œil. Et on a, les premiers géomaticiens dans les années 90 ont surestimé les analyses spatiales dures et sous-estimé la manière dont, avec des bonnes combinaisons d'informations, on peut produire des choses intéressantes. Mais la géomatique professionnelle en est revenue. Hein. Après 10 ans où, en fait, dans les collectivités locales, il n'y a pas d'outils de modélisation spatiale complexe, mais que les gens font du SIG, les professionnels se sont dit, attends, c'est qu'on doit pouvoir faire des choses intéressantes avec les SIG sans calcul très, très sophistiqué d'analyse. Donc, c'est qu'on fait une analyse avec autre chose. Ben, c'est avec l'œil. Ça, si vous voulez une caution professionnels et recherche sur, vous avez raison de réfléchir visuellement avec des outils, enfin, de ma part, vous l'avez sans aucun problème. Je ne sais pas si vous la cherchez, en tout cas, je vous la donne. Donc, GeoAnalyst, on l'a développé pour ça. Donc, je passe très rapidement. Donc, on avait Arc Explorer qui permet de faire des choses très intéressantes, qui permet de faire de plus en plus de choses. Les nouvelles versions sont encore plus importantes. Et la version qui va sortir cette année, qui est annoncée, permet de faire de la 3D. C'est-à-dire la réponse d'Esri à Google Earth, c'est de la vue 3D. Si vous avez des données 3D, c'est-à-dire l'équivalent un petit peu d'un Google Earth, voilà. Et puis GeoAnalyst, alors je passe rapidement, on a fait deux outils, donc un a été utilisé, GeoAnalyst qui a été développé, qui permet de faire des intersections, des zones tampons, des fusions de couches, de gérer un historique, c'est-à-dire qu'on voit ce qui s'est passé, ce que l'élève a fait, qui est un outil extrêmement simple. Et puis on a fait un outil qui s'appelle GeoDevue, qui permet de combiner, de zoomer de manière liée dans deux cartes à l'écran. C'est-à-dire, vous zoomez sur une carte et la deuxième zoome en même temps, ce qui permet de faire l'analyse. Donc, ces deux outils, là, on est en train, ils vont être diffusés gratuitement, GeoDevue, GeoAnalyst. Ils lisent du Shape, c'est-à-dire qu'ils lisent de l'Arc Explorer. Et moi, je les utilise en deuxième année de fac pour faire de l'initiation à la géomatique. C'est-à-dire, je n'utilise pas des outils professionnels, c'est trop long. Un certain nombre d'étudiants ne veulent pas devenir des géomaticiens professionnels. Je n'utilise pas ArcView, on l'utilise plus tard. J'utilise ces trois outils-là pour faire de l'analyse. Donc voilà le type de traitement qu'on peut faire. Donc ici à gauche, là vous avez une zone tampon qu'on peut représenter après, la voilà ici, remise dans Arc Explorer. Donc ça oblige les élèves à jongler avec deux outils. Mais ça c'est une chose importante aussi, il n'y a jamais un seul outil géomatique. Moi je ne connais pas un géomaticien travaillant avec un seul outil, c'est plein d'outils. Et ça fait partie du côté professionnel de l'affaire. Bien. Je fais le bilan d'expériences qu'on a menées dans le lycée avec du point de vue de l'outil. Hein. Je laisse de côté les limites et les intérêts pédagogiques. On en a déjà parlé, on peut en discuter. Je parle du point de vue de l'outil. La prise en main par les enseignants a été de moyenne à très bonne, mais en tout cas pas de réticence. Pour certains enseignants, c'est la limite Arc Explorer et GeoAnalyst, c'est la limite supérieure de la complexité. Je dis ça brutalement, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'apprendre de nouveaux outils. Plus complexe, ça ne marche pas. Enfin, moi, c'est ce que je vous dis, ce que mon expérience telle que je l'ai sentie. La preuve, d'ailleurs, c'est que quand les enseignants faisant l'expérimentation ont continué sans l'accompagnement de recherche, ils ont abandonné Arc Explorer pour GeoAnalyst. Pourquoi ? Parce que GeoAnalyst, c'était un truc très fermé. On entre, poum, poum, on fait les traitements, on a une sortie. Mais il n'y avait plus tout ce qui était le côté exploration d'Arc Explorer, voir plusieurs couches, les mettre, les regarder, zoomer, dézoomer, mettre une photographie aérienne dessous, l'enlever, mettre autre chose. Tout ça est apparu trop compliqué. Quand les enseignants ont été tout seuls, ils ont gardé GeoAnalyst, ce qui me semble quand même très, très représentatif de quelque chose. On va au plus simple. Alors, par les élèves, en revanche, y compris Arc Explorer et GeoAnalyst, on va dire que la prise en main de l'outil, elle est bonne à excellente, maîtrise rapide des logiciels, un très net plaisir opératoire, trop pour certains enseignants qui trouvent qu'on fait plus de géographie, mais beaucoup, beaucoup de manip, et une grande rapidité de la part des élèves, plus que de certains enseignants. Et une hétérogénéité assez forte entre les élèves, entre ceux qui maîtrisent bien l'informatique et les autres. Ceux-là vont très vite, les autres vont plus lentement avec un problème bon, mais qui est assez connu, sur lequel je ne reviens pas, mais qui est à gérer, pourtant avec des outils très très simples. Bien, alors maintenant, des choses moi, là, qui n'engagent que moi, hein, mais que j'ai vues. D'abord, il y a une crainte des enseignants les moins formés à l'informatique que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a une grande réticence, qu'il y a un chahut, d'être dépassé techniquement par les élèves. C'est des choses qui sont apparues assez rapidement. En revanche, il y a le travail en équipe qui avait été proposé avec des gens connaissant mieux le système, donne une réassurance. Enfin, OK, on aura peut-être des problèmes, nous, parce qu'on ne connaît pas bien l'outil informatique, mais on sera appuyé dans le lycée. Et ça, moi, dans le lycée dans lequel on a fait, ça me semblait une condition très, très forte. Les conséquences ont quand même été très nettes. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu, moi, je venais du supérieur et on faisait des trucs très ouverts sur les élèves peuvent bouger d'un poste à l'autre, on peut faire des questions dans lesquelles les réponses ne sont pas complètement prémâchées, etc. Enfin, on m'a bien recadré assez rapidement enfin, dans l'équipe. Hein. Mais on est allé au-delà, moi, je pense que même ce qui était souhaitable. Tous les exercices pédagogiques ont été extrêmement fermés avec des choses très séquentielles. C'est-à-dire, les profs, quand ils les ont appliqués, tout était carré. On avait deux modules, je passe rapidement là-dessus. Le module 2 plus exploratoire. Dans ce cas-là, même le parcours a été rendu très linéaire. Tout ce qui pouvait être exploratoire a été laissé de côté. On allait vers des solutions, il faut que ça soit cadré. On est allé vers l'outil plus simple. Au début, les interactions entre élèves étaient interdites. Moi, j'ai appris assez d'une manière, après l'expérimentation, que comme on travaillait dans un labo de langue, en fait, les élèves avaient le casque sur la tête et ils ne pouvaient discuter qu'avec le prof qui était au bureau. Voilà, ce qui est la réponse quand même, tout bien figé. Alors après, ça s'est ouvert, hein, mais la première réaction a été quand même faire tout bien piloter, faire qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors, d'abord, je rassure, moi, je suis allé dans certains colloques, ce constat-là, un grand nombre d'enseignants sont susceptibles d'utiliser ces techniques, et une toute petite minorité les utilise effectivement, il est valable dans tous les pays. Moi, j'étais à Budapest il n'y a pas longtemps et une Japonaise expliquait que le gros problème, c'était qu'il y avait des difficultés à faire passer au-delà du premier noyau de professeurs des techniques comme ça. Donc, il n'y a pas qu'en France, c'est partout. Et les freins sont d'origine variable. Donc, moi, on en a vu deux ensemble quand on a discuté. Il y a un problème pédagogique et un problème technique. Le problème pédagogique, c'est que les méthodes qu'on doit mettre en œuvre avec ces outils-là doivent être différentes. Les savoirs évoluent aussi et la relation pédagogique évolue. Donc ça, moi, je laisse ça à des gens plus compétents que moi, mais c'est une des choses très, très claires qui est apparue. Et donc, il faut penser ça. Puis, il y a un problème technique, c'est-à-dire que les conditions matérielles pour que les enseignants travaillent avec, elles étaient objectivement difficiles. C'était difficile d'installer des logiciels. Même Arc Explorer n'était pas simple à installer dans un labo de langue. Les données pertinentes et facilement accessibles et gratuites ne sont pas disponibles. Et une bonne partie des professeurs ne maîtrisent pas suffisamment l'outil pour être à l'aise par rapport à des élèves. Donc ces problèmes techniques, pour moi, sont importants. Et donc on a essayé de les relever. Donc je laisse de côté le problème pédagogique et on a essayé de trouver une solution pour répondre aux besoins. Donc la nécessité qu'on avait comprise, c'était disposer de cours et d'exercices adaptables aux besoins d'une classe, qui sont simples à mettre en œuvre, qui sont complets, qui sont adaptables par les enseignants. Ça, c'était une des choses. Un enseignant ne reprend rarement un cours tout fait. Il veut y mettre un petit peu sa touche. Donc, il faut laisser la possibilité d'adapter ça. Donc, la solution technique à laquelle on a réfléchi, elle n'est pas suffisante, mais elle me semble nécessaire. Et puis, parallèlement, il y a d'autres choses qui sont arrivées parallèlement et qui permettent de montrer qu'on est plutôt sur une bonne piste. Alors, on a essayé de développer un outil exploratoire qui s'appelle GeoWeb Explorer, qui est une solution en ligne pour qu'il n'y ait pas d'installation logicielle sur le poste de travail, qui soit accessible partout, qui soit utilisable dans différents contextes, CDI, domicile, cybercafé. Le CDI me semblait une chose importante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut rien installer sur un ordinateur, ben, il faut que tout soit en ligne. Il n'y a pas d'autre solution, hein, je ne vois pas comment on peut faire. Or, si j'ai bien compris, dans les CDI, on ne peut pas installer des choses spécifiques. Enfin, en tout cas, il y a certains lycées dans lesquels c'est le cas. Donc, inconvénient, il faut de l'Internet rapide, mais ça se résout tout doucement dans les lycées français ou les collèges français. En revanche, ce qui est particulièrement embêtant, c'est une gestion centralisée du système. Si vous avez un système en ligne, ben, il faut que quelqu'un le propose, parce que sinon, c'est qu'il soit centralisé. Donc, une solution, on avait envisagé une solution sous forme d'un serveur de données géographiques, un peu comme ce qui a été présenté sur Cornell, dans lequel la donnée est au cœur de la ressource pédagogique, parce qu'en fait, c'est la donnée qui est importante. Les profs peuvent construire des choses autour de la donnée, donc c'est la donnée qui structure. Et ça, c'est typique de la géomatique. La gestion des droits est facilitée, puisque si on a géré de manière centralisée les droits, a priori, on peut les distribuer. L'inconvénient, c'est un développement plus lourd, parce qu'il faut tout mettre sur le web. Et donc, on a essayé de réfléchir à une plateforme d'enseignement à distance fondée sur des techniques géomatiques. Alors, je vais simplement présenter à quoi ça ressemble. Donc, vous avez un accès formateur et un accès utilisateur quand vous vous connectez. Ensuite, vous avez un compte et vous pouvez gérer des classes, inscrire des classes, donc donner des mots de passe à des élèves pour qu'ils puissent venir se, euh, se connecter. Vous avez des tutorats. Donc, un tutorat, c'est un nom qu'on a, on a proposé pour un ensemble de cours, d'exercices et de données géographiques et d'outils qui permettent de répondre à cette question-là. Les tutorats, je vais y venir tout de suite. D'abord, on va choisir ses propres outils. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout le monde n'a pas besoin des mêmes outils. Donc là, vous avez l'ensemble des outils qu'on peut cocher et décocher. On a besoin d'un buffer ou pas? On a besoin d'un type de visualisation ou pas? Voilà. Et donc, en fait, on peut créer son propre outil. Alors, pour le formateur, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à quelque chose comme ça. Il a créé son tutorat dans lequel il crée des étapes. Il définit les données qu'il va utiliser, qui sont déjà en ligne, qu'il va rendre disponibles pour ses élèves. Il va définir des étapes, créer des questions publier son tutorat de manière à ce que des élèves puissent faire leur résultat. Alors, il y a aussi une évaluation sous forme de questions à répondre qui peut être exploratoire ou qui peut être complètement oui-non. Mais ça peut être aussi une question, fais-moi une analyse générale de la situation géographique à partir du cours qu'on a fait juste avant. Bien. L'idée, c'est qu'il gère ses tutorats, il gère ses classes et il gère sa propre information. Et vu par l'élève, ça ressemble à quoi? C'est un logiciel SIG en ligne, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un côté, il a des données disponibles qu'il peut cocher et décocher. De l'autre côté, il a des outils qui sont ceux qui ont été mis à disposition par le prof. Puis ensuite, il a différentes étapes qu'il doit réaliser en ligne et répondre. Ces réponses sont stockées ensuite sur la base de données. Bien. Donc là, par exemple, vous avez des dégâts liés à une crue dans le petit qu'on a fait. Alors, bon, premier bilan de fonctionnement, je vais très rapidement. C'est fonctionnel, c'est pas très joli, mais ça fonctionne. Elle répond a priori aux besoins repérés. Moi, je l'utilise avec mes étudiants de deuxième année. On a mis quelques tutorats, il en manque un petit peu. L'idée, c'est que Il faut évaluer cet usage d'un outil comme ça. Donc ça, c'est un petit peu la thèse de Sylvain. Une des idées, c'était de pouvoir évaluer l'intérêt pédagogique de l'affaire, pas uniquement l'intérêt informatique. Bon, on est en train de faire une version 2 pour améliorer des petits bugs qu'il y avait dans le système. Elle devrait être prête assez rapidement. Et puis bon, je termine là-dessus sur maintenant, qu'est-ce que ça nous a apporté de développer ça? Bon, ben d'abord, il faut réorganiser la base de données parce qu'il y a des problèmes. Il faut mieux s'interconnecter aux plateformes d'enseignement à distance, parce qu'en fait, on fait une plateforme d'enseignement à distance, c'est ridicule de la faire distincte du reste. Donc voilà, il faut tout redévelopper en open source. Pour ça, on avait choisi une solution propriétaire. Voilà, mais l'open source c'est une bonne solution. Il y a des améliorations fonctionnelles. Donc, par exemple, il n'y a pas de métadonnées, c'était pas prévu comme ça. Enfin, elles sont pas systématiques. Il faut des métadonnées, c'est-à-dire il faut confronter les élèves à un descriptif de données et comprendre en quoi la donnée qui va charger correspond à ce descriptif. Ça fait partie d'un travail important à faire. En fait, on a laissé la liberté au prof de choisir les outils, mais en fait, il faut choisir les couches qu'il veut visualiser. Ça, c'est techniquement plus compliqué, parce que pour l'instant, il se récupère tout un ensemble de couches. Mais si lui ne veut donner à ses élèves que 3 couches parmi les 4, il faut qu'il les laisse décocher, mais elles sont présentes dans le système. Donc, l'élève peut aller cocher des couches dont il n'a pas besoin. Voilà. Et puis, il faut comme on a développé un visualiseur, un analyseur spécifique, il faudrait développer des fonctionnalités parce qu'il y en a plus que dans Arc Explorer pour certains cas, puis il y en a moins pour Arc Explorer. Alors, je passe assez rapidement, mais ces ressources sont utilisables avec Arc Explorer qui n'est pas un outil local, mais qui est un outil en ligne. Vous pouvez vous connecter sur un serveur de données web qui est GeoWeb Explorer avec votre outil Arc Explorer en ligne. Vous n'êtes pas obligé de prendre le visualiseur interne à GeoWeb Explorer. Mais là, ça demande plus pour l'élève. Il faut qu'il ait Arc Explorer ouvert, puis son outil tutorat à côté et passer de l'un à l'autre. Ça demande quand même un peu plus de complexité, des grands écrans parce qu'il commence à y avoir des fenêtres dans tous les sens. Et puis bon, je termine en conclusion, en prospective. Bon, moi, en réfléchissant là-dessus, en fait, ce qu'on a développé, c'est en fait à l'intersection d'un SIG en ligne collaboratif, hein, il n'y a pas que dans l'enseignement qu'on essaye de faire travailler des gens à distance sur des données pour faire de la décision. C'est quelque chose, ça fait partie d'un développement de la géomatique, faire des outils collaboratifs pour que à Lyon, l'urbaniste de l'agence d'urbanisme et les gestionnaires urbains de la communauté urbaine de Lyon puissent faire des projets ensemble sans éventuellement se rencontrer à partir de données qui sont complètement géomatiques, informatisées. Donc ces outils-là, le SIG en ligne collaboratif, ça existe d'un point de vue professionnel. C'est même un des grands développements actuels. Et puis de l'autre côté, il y a la plateforme pédagogique. Donc ma question, c'est est-ce qu'il faut continuer à séparer ces deux aspects? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à plutôt aller regarder ce qui se fait du côté des SIG en ligne collaboratif et puis de côté des plateformes pédagogiques et puis de se mettre à l'intersection des deux plutôt que de développer quelque chose qui se trouve au milieu, qui va être lourd et qui va reprendre des choses aux deux? Alors je dis ça, c'est dans une logique plutôt de développement futur. Ensuite, il y a quelque chose qui était intéressant auquel j'ai réfléchi après. C'est qu'en fait, notre système ne gère la collaboration qu'entre enseignants. C'est-à-dire un enseignant peut faire un tutorat, le publier par un autre le voit, l'aménage pour lui, le remet en publication, quelqu'un le reprend. Il n'y a que du collaboratif qu'entre enseignants. Il n'y a pas de collaboratif entre élèves. Et ça, je pense que c'est, si vous voulez, encore une dérive de l'expérimentation qu'on a faite où tout devait être bouclé. C'est-à-dire que les élèves ne doivent pas collaborer entre eux. Et en fait, si on devait développer un truc, en fait, j'essaierais de développer comment des élèves peuvent partager des résultats. Ou ne pas le partager. Ça pose des problèmes si on est dans une logique de contrôle, etc. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire du collaboratif entre élèves. En tout cas, il n'y a pas à l'écarter comme on l'avait fait au départ. Et j'en reviens donc à une question, termine là-dessus, donc la japonaise présentant ses difficultés au Japon pour développer la géomatique dans les lycées et les collèges, équivalent japonais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc il y a quelqu'un dans la salle a dit, mais devant ces difficultés, est-ce qu'on ne peut pas court-circuiter les profs? C'est-à-dire, en fait, l'idée c'était, puisque un des, alors je fais de la provocation, hein, mais puisque un des freins, c'est le fait que les profs sont réticents à utiliser ces outils en classe. Il n'y a qu'à mettre ça directement sur le web, l'ouvrir aux élèves, et puis les profs devront suivre parce que c'est leurs élèves qui iront faire des choses directement sur Internet. Alors, c'était un Anglais qui avait dit ça, je crois. Et c'est quelque chose qui, bon, quand même est à réfléchir. C'est-à-dire que peut-être qu'un des bons moyens, et à mon avis, s'il y a un marché, c'est le privé qui le fera. Donc peut-être que ça peut être fait dans le public avec d'autres objectifs que de faire des cours en ligne de géographie utilisant des outils modernes. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre fournir en passant par l'élève, des trucs qui fonctionnent d'une manière assez simple et qui permettent de faire des cours. Voilà, j'ai terminé. Je n'ai pas rattrapé le retard, mais j'ai essayé.
Merci Thierry pour la richesse de ta présentation. Thierry ne sera pas parmi nous cet après-midi, la cour.
C'est à cause du CPE. J'ai organisé cet après-midi de rattrapage, j'avais pas le choix.
Voilà, on peut peut-être prendre 10 minutes s'il y a quelques questions. Simplement, quand il dit court-circuiter le prof, il y en a qui sont enseignants dans la salle, donc s'agit simplement de dire il y a des usages dans le grand public qui tirent les usages scolaires. Le prof a toute sa place, et la prof, c'est qu'on a expérimenté avec des profs. Et là, j'en profite pour dire quelque chose de très important, et je reprends ce qu'a dit Thierry, c'est que ça va dans les deux sens. Nous avons à réfléchir en tant qu'observatoire sur des pratiques existantes, qui sont des pratiques formelles ou informelles. Et nous avons aussi à expérimenter avec des protocoles d'expérimentation. Et je crois que l'INRP là est bien placé pour avoir des équipes de professeurs associés qui travaillent. C'est le cas déjà en SVT, c'est pas tellement le cas en géographie. Mais j'aimerais bien qu'on puisse aussi mettre en place des expérimentations avec des vraies hypothèses de recherche. C'est-à-dire que aussi on soit capable de mesurer ce qu'on fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Cette expérimentation, elle était très bouclée, c'est vrai, elle était très finaliste. Elle s'est heurtée, en fait, à quelque chose qu'on connaît bien en ETIS, hein, c'est la pédagogie de projet, le changement de posture de l'enseignant qui est habitué souvent, quand même, de manière dominante, à avoir du transmissif, hein, des postures transmissives. Donc, il n'y a pas que ça, mais ça a été un des freins. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on est en train de réfléchir actuellement, et là, je lance un peu un appel, mais on en reparlera tout à l'heure, aussi à des expérimentateurs éventuels sur ces différentes familles d'outils. Parce qu'on a parlé de Géonautes, il y a GeoWeb Explorer, il y a d'autres outils qui ont été présentés sur Eduterre, par exemple. Donc, on a des familles d'outils, et je crois qu'on a aussi à réfléchir à des scénarios d'usage et à des types d'expérimentation sur ces outils-là. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui.
Cette plateforme de GeoWeb Explorer, dans quel cadre elle a été utilisée? Vous parliez vite, j'ai pour essayer de comprendre.
Non, elle a pas été.
Non, mais j'ai pas fini ma question.
Elle n'a pas été réellement utilisée.
Oui, parce que le prof n'est pas en face de l'élève, si j'ai bien compris.
Si.
Donc, parce que le prof travaille de son côté, l'élève à l'écran après a toutes les questions, à tout. Enfin, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de communication verbale, hein, parce que rien ne remplacera quand même la communication verbale, entre le prof et l'élève quand l'élève est devant GeoWeb Explorer. Non. C'est plutôt dans le cadre des révisions ou dans quel cadre
non,
ça a été concrètement
ça, c'est un effet de l'accélération de mon exposé.
Peut-être.
Non, l'idée, c'est qu'en fait, c'est comme si on pouvait, toute proportion gardée, redévelopper un petit cornel spécifique pour faire ça en cours. C'est-à-dire que le prof peut être en présentiel avec les élèves. Les élèves se connectent sur Internet, ils récupèrent des exercices à faire, des données, etc. Mais ça peut être très ouvert dans les questions posées, et le prof peut parfaitement être là, en appui, en support, il peut l'utiliser en expliquant. Enfin, il n'y a pas de, on ne détermine pas une situation pédagogique particulière.
Oui, pour compléter ce que dit Thierry, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas se fier aux images figées qui étaient à l'écran. En fait, on lève un certain nombre de freins qui sont l'accès à la ressource, qui sont l'installation d'outils en ligne et surtout qui sont la construction de scénarios pédagogiques, parce que je crois que c'est ça aussi qui compte. Parce qu'il y a l'accès à la donnée, il y a l'accès à l'outil, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait avec. Et donc la construction de scénarios, j'y tiens beaucoup, parce qu'on a intérêt à mutualiser nos démarches, à mutualiser nos outils de scénarisation, et je crois que la plateforme est ce lieu qui permet à distance de le faire. Mais ce n'est pas de l'enseignement à distance, on est bien d'accord. Ce n'est pas une plateforme d'enseignement à distance. C'est une plateforme qui met à distance des outils, des ressources et des scénarios. C'est une banque d'outils, de scénarios à distance pour pouvoir directement à travers une simple interface de navigateur avoir accès, c'est tout.
Ça peut être aussi un.
Ça peut le devenir. Ça peut le devenir, mais c'est pas
Mais l'idée était de créer un outil qui permettait de se poser des questions. C'est pas un outil on peut le mobiliser, mais c'est pas un outil professionnel de plateforme en distance en ligne. C'est pas ça l'objectif. C'était de créer un outil de recherche sur lequel on peut réfléchir. Mais ça peut être utilisé dans différents cadres.
Oui, je voudrais remercier Thierry donc de cet exposé très rapide et qui a fait une synthèse de la recherche donc, qui avait été menée, qui était sur le principe de l'innovation. Est-ce que le SIG peut être facteur d'innovation dans l'enseignement de la géographie? Donc avec, il a employé souvent le terme de dérive hein, et de frein. Effectivement, on s'est heurté à de très nombreux freins dans cette recherche et je trouve que j'ai au web et justement un prolongement extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il a pu dépasser cette expérimentation pour aller plus loin et mettre à disposition de tous les enseignants à venir, enfin un outil qui me paraît extrêmement important, extrêmement intéressant, et qui n'oppose pas outils, méthodes, scénarisation, etc., mais au contraire essaye de faire la synthèse de l'ensemble. C'est pour ça que je trouve que sa démarche en tant qu'universitaire de s'inquiéter de l'enseignement secondaire, c'était très très bien. Voilà, merci.
D'autres questions rapidement? Oui, deux questions.
Juste sur l'exemple, d'où viennent les données sources pour faire les cartes, etc.
Les données sources, elles viennent du parc de Miribel-Genache sur lequel on avait travaillé, de données IGN pour lesquelles on a payé les droits, etc. Enfin, il y a tout eu un travail de rendre les sources disponibles. Voilà.
Bon, ma question concerne ce que vous avez dit sur l'analyse avec l'œil. Or, effectivement, les problèmes de visualisation et de traitement visuel des résultats est au centre de ces systèmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette analyse avec l'œil? Quelles sont les capacités d'un individu, disons, moyen de réaliser cette analyse? Quelles sont les limites de l'analyse visuelle? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, s'il vous plaît?
C'est un peu compliqué parce que ça dépend. Alors j'ai pas d'éléments complets à proposer. Si vous voulez, il y a des choses qui, pour prendre une idée, s'il s'agit de voir très rapidement quels sont les lieux qui sont très proches d'un autre lieu. Si vous avez visuellement, vous allez repérer tout de suite quels sont les lieux les plus proches. Et alors qu'un ordinateur, il va lui falloir du temps pour faire l'analyse systématique de cet aspect-là, visuellement, vous le saurez. En revanche, si on vous demande « Produis-moi la distance par un réseau systématique à 3500 points existants par rapport à un point », là, l'œil ne sert plus strictement plus à rien du tout et un ordinateur fait les choses bien. Donc, il y a des choses qui sont très compliquées à faire avec des algorithmes, enfin très longs à faire avec des algorithmes informatiques et que l'œil voit tout de suite, des structures. Voir apparaître par exemple une structure à une certaine échelle alors qu'on a des données beaucoup plus précises, ça l'œil le voit. Faire ce travail-là avec des algorithmes, ça devient extrêmement compliqué. Donc faire sortir des structures, faire sortir une généralisation visuelle, une analyse d'ensemble, ça marche très très bien. Avec un ordinateur, c'est compliqué. Mais on pourrait prendre plein d'autres exemples.
Oui, il y a un très bon ouvrage là-dessus qui est en anglais, Spatial Analysis. Ce qu'ils appellent high thinking, effectivement, les anglo-saxons, c'est quelque chose qui est très important parce que pour eux, c'est une base de l'intelligence. On est très cartésien, nous l'intelligence est d'abord rationnelle, eux aussi elle est à base visuelle, et il y a toute une école américaine notamment, si ça vous intéresse, j'ai des références biographiques, je travaille là-dedans pour ma thèse, notamment où on prend en considération effectivement, de manière d'ailleurs transversale, interdisciplinaire, l'analyse par l'œil. Alors ça a des limites, parce que les Anglais tombent un peu dans l'excès inverse, c'est que eux, je vois, donc c'est vrai, faut faire attention quand même, mais c'est vrai que notamment quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, c'est la fusion entre la carte et l'image. Qu'est-ce qu'est la carte? Qu'est-ce qu'est l'image? Et j'ai un rapport sur Google Earth à la carte qui est un rapport à l'image. Et tout à l'heure, quand il a été question de transparence, quand on fusionne deux pixels, qui l'un résulte d'une image satellite, c'est-à-dire des fausses couleurs, avec un pixel, une image aérienne, donc j'ai un pixel moyen qui veut dire quoi? D'un point de vue sémiologique, rien. C'est-à-dire que j'ai un pixel qui est en couleur, plus ou moins une fusion, mais qui ne veut rien dire. Donc vous voyez, attention, l'analyse visuelle, c'est très bien. Pour les structures, pour reconnaître des grandes formes morphologiques, mais n'empêche qu'il faut faire attention aussi aux limites. Il y a des choses qui ont été faites là-dessus, simplement, on est en train, effectivement, les géomaticiens sont rattrapés par les usages grand public, qui fait qu'aujourd'hui, la visualisation revient en force, plus que le traitement, et peut-être que le traitement disparaît du coup. Alors... Voilà, je laisse présenter Michel. Vas-y.
Alors, avant de présenter Marie-Josée Bonceau, je voulais juste faire une remarque à Thierry, puisqu'il ne sera pas cet après-midi avec nous. C'est que dans le logiciel Genote, on a pris en compte cet aspect de cet espace collaboratif entre élèves, en fait. Voilà, juste une remarque.